Bonjour, bienvenue à l'émission Aime l'été, vendredi 22 juillet, début des grandes vacances pour plusieurs. Sinon, la fin de semaine qui arrive à grands pas. Ici Chantal Lavoie, je vous invite à passer la prochaine heure avec nous. On ira se rafraîchir un peu partout au Québec. On s'intéresse à un orchestre très formateur pour les jeunes musiciens et on voyage en compagnie de notre globe-trotteuse. On vous propose de profiter avec nous de cette belle période estivale. Voici votre émission Aime l'été. Aujourd'hui, nous allons discuter avec le chef Jean-Philippe Tremblay à propos de l'orchestre de la francophonie qu'il dirige depuis les débuts. Cet orchestre qui est une sorte d'académie orchestrale ou un orchestre-école, si on veut, et qui nous offre une magnifique programmation cet été. On va filer du côté de Vancouver avec notre chroniqueuse voyage Maude Carrier. Mais d'abord, au cours de la prochaine demi-heure, on va découvrir des lieux de baignade exceptionnels. Nous allons accueillir la co-auteure du livre « Les plus belles plages du Québec », Sylvie Rivard. Suivez-nous jusqu'à 13h à Aime l'été. C'était Niagara, ce groupe de pop-rock français fondé en 1982, composé de Muriel Moreno et Daniel Chenevez avant leur séparation en 1993. Eh bien, l'été, c'est le temps de la baignade, de l'amour aussi, sans doute, mais vous savez qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour se baigner. Le Québec est parsemé de lacs et de rivières, et il y a notre fleuve aussi. Et puis, il y a maintenant un bel ouvrage pour faire notre choix à travers toutes ces belles régions du Québec. Les plus belles plages du Québec parues aux éditions de l'Homme. Plus de 100 lieux rafraîchissants et inspirants. Les co-auteurs sont Anne-Marie Parent et Sylvie Rivard. Et on accueille justement à l'instant Sylvie Rivard. Bonjour!
Bonjour Chantal.
Ah, ça fait plaisir de vous avoir à l'autre bout du fil parce que vous allez nous amener à travers ces belles découvertes et puis j'ai très hâte. Alors Sylvie Rivard, effectivement, il existe de magnifiques plages un peu partout au Québec. On en connaît quelques-unes, bien sûr, mais combien d'autres gagnent à être connues? Point de départ souvent aussi pour de belles randonnées en kayak, en canot ou en pédalo. Et puis, qu'est-ce qui vous a inspiré un peu à faire ce répertoire des plus belles plages du Québec? Vos souvenirs de jeunesse?
Je vais juste te préciser que ce ne sont pas les plus belles plages. Parce que quelqu'un pourrait dire, ah, mais cette plage-là est tellement belle, comment ça n'est pas dans le guide?
Okay.
Donc, c'est pour ça qu'on est allé plus vaste.
Vous avez raison, ce sont les plages du Québec. C'est moi qui fais erreur, là. J'ai mis les plus belles plages, mais c'est les belles plages du Québec.
Mais ce sont toutes des belles plages, effectivement. Notre choix était vraiment... qui est à l'origine de ce guide-là, ça a été un peu motivé par des souvenirs de jeunesse. Anne-Marie et moi, on a passé, pas ensemble, mais chacune de son côté, on a passé les étés au bord de l'eau, dans des chalets, moi en Abitibi. Donc,
oui. Parce que vous êtes originaire d'Abitibi, alors vous connaissez bien les plages de là-bas, c'est sûr.
Oui, oui.
C'était du côté de Saint-Donat, hein, je pense, oui.
Exactement, exactement. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a voulu ratisser un peu le Québec pour pouvoir proposer justement des endroits à tous les Québécois et aux visiteurs aussi pour découvrir d'autres beaux plans d'eau où se tremper les orteils.
Exactement. Ça a été quand même un travail assez imposant. Ça s'est fait en pleine pandémie. Donc, oui. Ce qui fait que, il arrive un moment où vous n'avez même plus l'occasion de sortir de chez vous pendant la pandémie. Alors, il y a des plages que vous n'avez pas nécessairement visitées non plus là, parmi ces plages.
Non, les auteurs vous diront souvent qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'amis, pas des amis, mais des professionnels, des experts dans toutes les régions du Québec. Ben, dans notre cas, c'est ça qui nous ont alimentés aussi pour nous aider à clarifier nos choix, à justifier les choix et à les valider et à donner de l'information. Parce que c'est vrai que le Québec est grand.
Ouais.
Il y a énormément de... On a beaucoup de plages. On a à peu près une centaine de plages dans ce guide, mais il y en a encore beaucoup plus que ça. Et souvent, ça a été très difficile comme recherche parce qu'effectivement, comme vous le disiez, on était en pleine pandémie et c'était difficile de rejoindre les gens, de pouvoir parler à des gens. Et en plus, on a fait une recension quand même assez fidèle de ce qui s'offre en ce moment, de ce qui est accessible.
Mm-hmm.
Mais accessible, je parle dans le... c'est pas tous nécessairement accessible aux personnes en situation de handicap, là, on s'entend, malheureusement, mais des plages où on peut aller. Là.
Je comprends. Où on peut de toute façon se rendre, parce qu'il peut y avoir de magnifiques plages, mais c'est pas nécessairement accessible par route, ou enfin, c'est plus complexe de s'y rendre, bien sûr.
Absolument, absolument. Il y a aussi cette accessibilité-là. Et à l'été 2022, c'était déjà là en 2021, mais aussi un petit hic dans nos... Ce qui peut arriver, c'est que le manque de main-d'œuvre se fait sentir également sur le bord des cours d'eau.
Ah, c'est ça, oui. Bien entendu. Comme partout ailleurs.
Comme partout ailleurs. Donc, nous, on a fait vraiment un travail de fond de lac.
Oui.
Je trouverais que ça en dit. Mais on a vraiment proposé là, ce qui est le plus facile et le plus accessible.
Je comprends. Alors, c'est un guide fort intéressant parce que, vous avez réuni 10 régions. À travers ça, évidemment, vous avez sélectionné, vous avez choisi un certain nombre de plages. Comme vous dites, il y en a tellement, il faut faire des choix à un moment donné. Mais on va en reparler de chaque région et tout. Mais puis des plages, bien entendu. Mais en fait, en parallèle aussi, il y a plein de petites informations, de petits renseignements fort sympathiques ben, justement, là, on écoutait L'amour à la plage. Ben, vous nous faites des suggestions même de musique en lien avec la plage. Alors, on va en entendre d'ailleurs deux autres de vos suggestions, très drôles. Et puis, bien sûr, des suggestions aussi de lecture en lien avec la plage. Enfin, il y a plein de choses. La qualité des eaux de baignade également.
Oui, effectivement. Il y a des conseils, des mises en garde, justement, on parle d'accessibilité. On a essayé de trouver des endroits qui étaient accessibles aux personnes en situation de handicap. Et dans les premières pages du guide, il y a justement une référence à des endroits où on peut louer des fauteuils hippocampes pour justement avoir accès, pour que les personnes en fauteuil roulant puissent avoir accès au plan d'eau. Donc ça, il y a des adresses justement dans les centres André Vigier que je pense que vous connaissez bien, qui offrent ce genre de fauteuil-là. Et il y a à la plage d'Oka où on offre gratuitement ce fauteuil-là aux personnes en situation de handicap. Donc c'est très, très... Mais il faut toujours réserver avant, évidemment, pour ces équipements-là. Hein.
Oui. Et puis, on parlait de la qualité des eaux de baignade, mais on apprend que ce n'est pas toutes les plages qui sont testées. Il faut en faire la demande, hein. C'est du cas par cas, c'est-à-dire que ce sont quoi les municipalités généralement qui en font la demande, quoi?
En fait, c'est le ministère de l'Environnement. C'est pas un dossier que j'ai.
Non, mais en fait, on apprend ce genre de choses en lisant le livre, mais c'est pas nécessairement détaillé, mais c'est le genre d'information qu'on peut quand même avoir
exactement,
un petit peu là.
Exactement. Ouais, et il faut se renseigner avant, justement, pour voir s'il y a des avis contraires. Là. Est-ce qu'il y a des algues bleues? Et ça, la plupart du temps, dans les journaux locaux, les médias locaux, ça fait partie de l'information. Ou sur les sites des municipalités, vous avez tout à fait raison. Ce ne sont pas nécessairement les municipalités qui sont responsables de tester, mais c'est elles qui sont responsables d'afficher l'information.
D'afficher l'information, c'est ça.
Oui, oui.
Et puis, bon, il y a ça maintenant aussi dans votre livre. Et puis, toutes sortes des incontournables également. Vous avez, on met des informations aussi sur la région comme telle. Je pense à la région de Charlevoix, par exemple. Là, vous parlez du festif de Baie-Saint-Paul, justement, qui est en cours présentement. Alors, c'est tout à fait dans le ton, là, d'ailleurs, qui se déroule cette semaine, là, jusqu'à dimanche. Alors, vous marquez ce genre d'informations dans votre guide aussi. Alors, c'est intéressant. Tout ce qui concerne la plage, le soleil, comment se protéger, enfin, c'est complet, quoi.
Mais en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu aborder la découverte du Québec sous un autre angle. Parce qu'il y a beaucoup de guides de randonnée, il y a beaucoup de guides touristiques, et on a voulu aborder ça par une autre lorgnette, qui sont les plages. Donc, à partir d'une destination de plage qu'on ne connaît pas nécessairement, on va pouvoir graviter autour et pouvoir découvrir la région.
Bon, parfait.
Donc, c'est ça, la plage est comme un point de chute, et on peut graviter autour et voici, comme par hasard, il y a des activités à faire autour, et beaucoup.
Alors, très intéressant. Écoutez, je vous propose, moi, de faire une petite pause. Là, on va justement entendre une de vos suggestions que vous nous faites dans le livre en lien avec la plage. Maintenant, on va revenir après, par exemple, puis on va parler un petit peu plus là, des plages, là. On va parler des régions, puis de vos coups de cœur. Puis enfin, bon, évidemment, on ne pourra pas parler de toutes les plages, mais on va essayer d'en parler le plus possible. Alors, on revient tout de suite après la pause, Sylvie Rivard.
Oui, parfait.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés, le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
C'était La Madrague. Vous avez reconnu Brigitte Bardot qui chantait. C'est une suggestion musicale que l'on retrouve dans le livre Les plages du Québec, plus de 100 lieux rafraîchissants et inspirants, qui a été écrit, cet ouvrage, par Anne-Marie Parent et Sylvie Rivard. On a à l'autre bout du fil Sylvie Rivard. Donc, on avait commencé à discuter du livre, en fait. Puis, vous savez, c'est drôle parce que je l'ai eu, je ne sais pas combien de temps, ce livre. C'est un livre de chevet, finalement. Et puis là, j'ai toujours pensé que c'était les plus belles plages du Québec. Je ne sais pas pourquoi, mais non, c'est vraiment les plages du Québec. Je ne sais pas, j'ai toujours tendance à ajouter des qualificatifs hein, qui existent,
aussi,
enfin, qui existent pas nécessairement. Ouais.
En fait, c'était les plus belles plages jusqu'à ce qu'on réalise que ce sont les plages du Québec.
Oui, c'est parce qu'il y en a tellement, puis il y en a tellement de belles. Écoutez, je suis très impressionnée parce que au fond, vous avez aussi de très belles photos. Alors vraiment, tu te dis, mais c'est pas possible. Juste à regarder les photos, et souvent, ce sont des plans aériens, alors c'est d'autant plus spectaculaire. Donc vraiment, de belles découvertes à faire. Et puis bon, ben on a dit tout ce qui se trouvait dans le livre, autre que les plages en tant que telles. On parlait de la qualité des eaux de baignade tout à l'heure, aussi des dangers de la plage, hein, certaines mises en garde. Alors, c'est intéressant aussi, c'est complémentaire. Alors là, vraiment, on va parler de vos coups de cœur. D'abord, vous venez d'Abitibi. On pourrait peut-être commencer par cette région-là. Il y a plusieurs belles plages de ce côté.
Oui, il y en a quelques. Écoutez, j'ai feuilleté, évidemment, j'ai feuilleté, et j'aimerais mentionner que il y a peut-être des endroits qui sont moins accessibles, qui sont fermés ou qui sont à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Et il y a d'autres problématiques. Là, je pense justement à la plage à Rouyn-Noranda. Il y a peut-être d'autres des éléments qui font en sorte que c'est moins
attrayant
en ce moment. Là,
mais l'actualité, oui, on sait bien que c'est possible que ce soit pas la plage qui soit le plus couru en ce moment, oui, de ce côté-là.
Non, c'est ça, mais il faut quand même pas s'empêcher d'y aller, là, parce qu'il y a beaucoup d'activités quand même dans la région, surtout à Rouyn-Noranda, là.
Ouais.
Donc, faut pas s'empêcher d'y aller.
C'est ça. Puis comme vous dites, il peut y avoir des problèmes de main-d'œuvre. Alors là, évidemment, vous avez répertorié toutes ces plages, mais c'est possible aussi que momentanément, ces plages-là ne soient pas tout à fait accessibles, bon, pour toutes sortes de raisons. Alors, cela dit, donc, vous aviez votre région. Bon, c'est sûr qu'il y en a d'autres aussi, il y en a plein. Alors, tu sais, je ne sais pas, on peut y aller au hasard. Si je pense à la Côte-Nord, on pense à la Côte-Nord aussi. Bon, là aussi, on compte de nombreuses plages.
Écoutez, la Côte-Nord est carrément dentelée de... On l'appelle la Cancun du Nord. C'est spectaculaire. Quand on quitte, d'ailleurs, quand on monte, on prend la route, la 138,
on
a la plage d'un côté et la forêt d'épinettes de l'autre. Donc, c'est très, très beau. C'est très, très... et la route 138 est vraiment magnifique là, quand on l'allonge, et ça permet de juste voir les plages. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment spectaculaire. C'est une région qui est une des plus choyées avec les îles de la Madeleine à ce point de vue-là.
C'est ça. Puis bon, évidemment, tout ce qui touche, ça va de soi, les îles de la Madeleine, on s'entend, là. Je pense que tout le monde sait à quel point ça peut être magnifique. Évidemment, quand on touche la région du Bas-Saint-Laurent, tout ce qui touche le fleuve, ben là, il faut tenir compte aussi des marées, c'est autre chose, là.
Absolument.
Il peut y avoir des bancs de sable, aussi intéressants. Enfin, bon, évidemment, ça, le fleuve, on s'entend que c'est pas mal froid. C'est pas que, qu'on y fait trempette facilement.
C'est étonnant. Le fleuve à la hauteur du Bas-Saint-Laurent, si je pense à Vertier-sur-Mer ou un peu plus haut jusqu'à peut-être Kamouraska. Là,
oui, Kamouraska, c'est, quand même... c'est sûr. Oui, c'est vrai qu'on peut se baigner. Oui,
oui, on peut se baigner. C'est étonnant. Moi, la première fois que j'ai mis l'orteil dans le Saint-Laurent, c'est à Saint-Michel de Bellechasse. J'étais surprise parce que c'est quand même... c'est pas froid. C'est sûr que comme il y a des marées, l'eau se réchauffe. C'est la même chose sur la Côte-Nord. L'eau est réchauffée parce que quand l'eau monte, ça se réchauffe tranquillement. Donc, c'est étonnamment plus chaud qu'on pense. Évidemment, ça peut être aussi froid qu'on pense aussi, là,
oui, oui.
À certains moments.
Mais, c'est sûr. Au beau milieu, c'est autre chose. Mais sur le bord, effectivement, on peut peut-être bénéficier de moments plus confortables.
C'est ça. Et je vais vous laisser aller avec les questions, là. Parce que je pensais aux battures quand, sur la rive nord du Saint-Laurent, dans Charlevoix, toutes les plages qui sont sur le bord du fleuve se découvrent à marée basse. Hein.
Mm-hmm, c'est vrai.
Et il y a un gros party de bouettes quand la marée se retire et les gens se font des parties de bouettes. Là.
Ah, oui, on pense à la traversée là, à l'île verte. Là.
Exactement, ouais. Entre autres. C'est de la boue, les gens se font des cures de boue ou font juste s'amuser et puis vont se rincer dans le fleuve. C'est une des activités amusantes. Là.
C'est ça, c'est un autre aspect finalement. Ben oui.
C'est un autre aspect, oui.
Alors, c'est ça, la boue qui a certaines propriétés intéressantes alors pour la peau.
Apparemment.
Oui, apparemment. Alors, mais évidemment, donc on pense à toutes ces régions, le centre du Québec, la région de Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laurentides, enfin... Je vous laisse peut-être me parler de certaines plages en particulier dont vous aimeriez parler plus spécifiquement. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'idée?
En fait, moi, une des plages que j'aime... puis il faut profiter, en fait, des îles de la Madeleine. Je sais que beaucoup de gens en profitent parce qu'elle est victime d'érosion à cause des changements climatiques. Là. Il y a beaucoup d'érosion, donc il faut remblayer. C'est le même phénomène sur la Côte-Nord. Il y a beaucoup de remblaiements de plages, des gros camions de sable ou de petites roches là, qui viennent renflouer la plage pour justement éviter qu'elle disparaisse. Là. Mais aux îles de Madeleine, ma plage préférée, c'est la Grande Échouerie.
Ah oui, c'est magnifique.
C'est magnifique.
C'est blanc.
On se croirait ailleurs. C'est vraiment étonnant. Et quand on a un peu le portrait de la Grande Échouerie qui fait référence aux échouries de... Bon, je trouve pas le mammifère marin. Je trouve pas le nom.
Ouais,
c'est comme un gros phoque, là.
Oui, c'est ça. Pas un marsouin, comment on appelle ça? Je sais
non,
ce que vous voulez dire.
Je
les voyais au loin quand j'étais aux Îles-de-la-Madeleine, là, qui me regardaient, oui, c'est ça, regardaient me prélasser au soleil.
Oui, puis on se sent un peu comme Robinson, parce qu'on
oui.
on est... C'est ça. Ben, en tout cas, quand il y a certains moments où il y a moins de monde et la plage est tellement vaste.
Ouais. Il y a un endroit dont j'aimerais parler aussi, c'est en fait, c'est voyons dans pas dans l'Outaouais, c'est vous savez, la Rivière Rouge. C'est
oui.
Il y a quelque chose de formidable qu'on connaît moins, avec il y a des bancs de sable, la Rivière Rouge, c'est absolument incroyable.
Oui, et très fréquenté. Hein. Il faut vraiment voir, il y a des gens qui ont été déçus qui pouvaient, parce que ça c'est récemment à cause de la popularité, c'est devenu de plus en plus populaire.
Ah, c'est ça, oui.
Moi je le voyais quand étant donné que je viens d'Abitibi, j'ai souvent fait cette route là pour aller en Abitibi et cette plage là, la plage est tellement longue, on la voit de la route. Et puis, il n'y avait personne, et tout à coup, c'est plein.
Ah oui, c'est
et
ça.
Du coup, il y a beaucoup, beaucoup. C'est très, très fréquenté, mais c'est ouais. tellement beau. Le sable blond.
Très blond, oui.
Blond, c'est beau, c'est magnifique.
Ouais.
Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans la réserve faunique, la Vérendrye aussi, il y a des... Ben, à cause des... des esquers, c'est des régions d'esquers, les bancs de sable comme ça,
c'est exceptionnel.
C'est de toute beauté,
hein,
ça, ouais. Ça fait des très, très belles plages qui sont... elles ne sont pas définies plages comme telles.
Ouais.
On les voit de la route. Je vous invite à traverser le parc La Vérendrye. Je vais travailler pour ma région, là,
okay.
Parce que c'est magnifique et on voit ces beaux bancs de sable-là tout le long. On voit la rivière Rouge, on peut s'arrêter, faire une petite saucette, là. C'est une magnifique croûte à prendre qui est complètement à l'opposé de l'Est.
Oui, non, je comprends. Écoutez, Sylvie Rivard, en tout cas, chose certaine, c'est vrai qu'on ne peut pas toutes les détailler. Il y en a tellement. Et je pense que je vais inviter les gens à aller vraiment acheter votre livre, La meilleure des choses. Et puis, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Les photos sont magnifiques. Ça vous donne de belles idées. Puis, en tout cas, chose certaine, oui, les plages du Québec, plus de 100 lieux rafraîchissants et inspirants. C'est vraiment à découvrir. Un guide fabuleux. Alors, merci bien d'être venu nous en parler. Puis, on va finir en musique. Vous n'avez pas parlé de plages de nudistes, hein?
Il y en a dans Charlevoix, oui, apparemment, bon. La plage de Capozo. Ce n'est pas un secret. Il y a aussi à Oka, où il y a un petit bout, apparemment,
on connaît bien.
Qui est réservé au tout nu.
Bon, d'accord. Ben justement, c'est parce qu'on s'en va, justement. On va entendre la chanson des trois accords, tout nu sur la plage.
Non,
alors,
j'adore.
Merci, Sylvie. Au plaisir.
Merci, Chantal.
Au revoir. Oui,
à bientôt. Bye-bye.
L'autre jour à Tokyo, il a fait plus beau qu'en moyenne partout ailleurs. J'ai enlevé mon manteau, il faisait moins chaud en dehors qu'à l'intérieur. Montez les fenêtres.
Vous écoutez Aime l'été.
Deuxième demi-heure de l'émission Aime l'été. Je vous souhaite une bonne journée et merci d'être avec nous. Je voulais, juste avant de parler à Maude, d'abord, Maude qui est devant moi. Bonjour, Maude Carrier.
Bon vendredi.
Bon vendredi. Alors, chronique voyage qui s'en vient tout juste après la pause, après cette musique qui va suivre. Mais je voulais justement, avec toi, souligner le fait que, on parle beaucoup de randonnées pédestres, de beaux sentiers en forêt. C'est magnifique. On incite les gens à faire de l'exercice et tout. Mais, on sait que dernièrement, au mois de mai, notamment fin mai, là, juin, il y a eu de violentes orages et puis des intempéries quand même qui ont causé beaucoup de dommages dans les forêts des Laurentides et de la Naudière. Et puis là, il y a un cri du cœur qui a été lancé justement parce qu'on demande une aide d'urgence pour justement nettoyer les sentiers. Alors, c'est problématique. Je pense que on sait que la CEPAC, le plus grand réseau de plein air du Québec, entretient 1450 km de sentiers en forêt. Ça représente moins de 10% des 17 000 km de sentiers québécois existants, alors imaginez. Donc, c'est En fait, qui a fait l'entretien? Ce sont des bénévoles. Alors, on a besoin de bras. Le gouvernement qui n'a pas de budget nécessairement pour l'entretien de ces sentiers. Alors, justement, là, c'est la période des vacances, les grandes vacances qui commencent. Si vous allez vous promener en forêt, ben ayez cette pensée. Et puis, si jamais vous cherchez quelque chose à faire, ben allez peut-être prêter main forte à tous ces gens qui doivent effectivement entretenir les sentiers. Alors, on fait une petite pause musicale juste avant de retrouver Maud Carrier. À tout de suite.
J'ai reçu un appel, on m'invitait à prendre le large. Une petite coquine que je désirais depuis le secondaire, s'il vous plaît. Mais je savais pas trop quoi penser, t'sais, la liberté, ça me faisait peur. Ça me donne la frousse de tout quitter, mais cette fille-là, je l'ai au cœur. J'ai fait le tour de mon école, je sais pas vraiment ce qui m'intéresse. Toujours assis sur mes deux fesses, je crois que je vais tout laisser tomber. Dans cet esprit-là, s'il y a des choses qui me plaisent ici, elles seront plus belles vues de là-bas. Cette fois, viens, je t'emmène. Le soleil brillera pour nous deux. J'attendais de tes nouvelles, j'attendais ton appel. Goodbye à mes vrais amis. En vérité, je vous le dis, je mets ma vie à l'heure. Je mets ma vie à l'heure. Cette fois, viens, je t'emmène. Le soleil brillera pour nous deux. Je mets ma vie. Aujourd'hui, nous v'là parti, je sais pas vraiment ce que je m'en vais faire. Je suis pas si pressé de le trouver, je serai patient pour lui plaire.
Respectables et ma vie à l'heure. Les Respectables, groupe québécois originaire de Québec qui avait remporté entre 2001 et 2002 le prix Félix du groupe de l'année au Gala de la Disque. Et rappelons qu'ils ont fait la première partie des Rolling Stones le 8 janvier 2003 au Centre Bell. Les Respectables qui sont encore actifs, hein, ils donnent des spectacles ici et là cet été. Et comme le disait la chanson, on va nous aussi partir dans l'Ouest avec Maud Carrier, notre chroniqueuse voyage, Maud Carrier alias MC Globetrotteuse. Bonjour Maud.
Bonjour, bonjour.
Eh bien oui, on s'en va à Vancouver.
Eh oui, es-tu déjà allée à Vancouver, Chantal?
Ben effectivement, je n'y suis jamais allée et je pense que toi, ça fait pas si longtemps non plus.
Ben comme bien des Canadiens, hein, j'ai profité de la pandémie pour visiter mon pays et j'y suis allée l'automne dernier.
C'est plus que temps que j'aille de ce côté-là.
Ben, j'espère te donner envie d'y aller.
Ben, je pense que oui. Puis là, je vais avoir toute ma recherche.
Oui, tu vas avoir déjà tes infos pour partir.
Eh oui.
Je commence avec quelques petites informations en vrac à propos de Vancouver. Donc, ça fait partie des plus grandes villes du Canada. On se situe vraiment entre l'océan Pacifique et les montagnes. Donc, déjà là, c'est magnifique comme paysage. Il y a environ 660 000 habitants à Vancouver. Donc, c'est pas tant que ça. Mais bon, si on élargit au Grand Vancouver, on parle de plus de 2,6 millions d'habitants.
Mm-hmm.
C'est une des villes les plus diversifiées du Canada sur le plan ethno-racial. Là, donc, il y a 52 % des habitants dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Alors, déjà là, ça nous donne un petit ton là, au niveau des couleurs de la ville. Originalement, la ville se nommait Gastown et s'est développée autour d'une série qui s'appelle Hastings Mills, pardon mon anglais. Et on retrouve justement un grand port naturel, évidemment, depuis l'océan Pacifique à Vancouver. C'est le quatrième plus grand port en termes de tonnage dans les Amériques. Donc,
quand on est à Vancouver, c'est quand même bon à savoir.
Oui, exactement. Et quand on est à Vancouver, on le voit, là, il y a énormément de bateaux avec dans le coin. Bon, on se rappelle, Vancouver a été l'hôte des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en 2010. Et petit fait que peut-être, c'est pas tout le monde qui est au courant, le Vancouver a beaucoup de studios de cinéma. Donc, ça a été nommé même Hollywood North par les Américains.
C'est vrai, parce qu'ils sont plus près de Los Angeles, n'est-ce pas?
Exactement. Et bon, des paysages magnifiques qui rappellent un peu une partie de la côte ouest américaine. Donc, on peut se retrouver là, à Vancouver ou dans les environs et retrouver nos films et nos séries favorites qui ont été tournées dans ce coin-là.
C'est vrai que c'est un pôle important au niveau du cinéma. Ouais.
Et dans la ville, on a aussi dans les plus grands parcs d'Amérique du Nord, des parcs urbains, le parc Stanley. Donc, j'ai fait une petite comparaison. Là. Le parc Stanley fait 4 km² si on compare à Central Park, que tout le monde connaît, là, qui est de 3 km². Donc, c'est même plus grand que Central Park.
Ah, ben tiens, ça, je ne savais pas.
Et petite note au sujet du climat. Hein, donc, comme on est près de l'océan, c'est un climat qui est tempéré, humide. Il fait quand même doux à l'année, là, autant hiver comme été. Mais bon, il faut quand même prévoir imperméable et parapluie parce que ça arrive qu'il pleut assez régulièrement à Vancouver.
Oui. Et puis, il peut faire chaud aussi. Hein, eux aussi sont touchés par les bouleversements climatiques.
Effectivement.
Bien entendu. Alors, c'est ça. Et on va parler de Gastown, justement, qui est un peu la vieille ville, au fond.
Exactement,
historique, hein, parce que, comme vous le disiez, ça se nommait comme ça au départ, en 1867.
Exactement. Donc, on commence par là. Je trouve que c'est toujours un bon début, quand on visite une ville, de commencer par le cœur historique. Du côté de Gastown, on se rend d'abord à l'attraction principale, qui est une horloge à vapeur, qui a été installée seulement en 1977, mais elle a quand même un look un peu plus vieillot, parce qu'elle a été construite basée sur des plans là, qui datent de 1875. À chaque 15 minutes, il y a un sifflet qui retentit là, avec la vapeur qui en sort. Et à chaque heure, une petite chansonnette qui est poussée pendant plusieurs minutes. C'est d'ailleurs la même chanson que le Big Ben à Londres.
Bon, alors intéressant pour les enfants, entre autres.
Exactement, oui. Pour les adultes aussi.
Sûrement.
C'est une belle attraction.
Tout court. Ouais.
À quelques pas de là, on retrouve le Maple Tree Square, où il y a un édifice là, qui est vraiment fait en pointe, un peu comme on retrouve à Toronto et à New York, là, qui s'appelle le Flat Iron. Et il y a aussi une statue qui est dédiée à Grassy Jack, qui est un marin et aubergiste canadien important pour la ville de Vancouver.
Bon, et puis là, il y a un autre secteur qu'on va visiter, West End.
Oui, c'est un quartier que j'ai vraiment trouvé magnifique à découvrir à pied. D'abord parce qu'il y a une belle grande plage, English Bay, là, donc dans la baie des Anglais, une longue plage de sable sur laquelle ils ont installé d'immenses bio de bois. Là. Bon, nous, d'habitude, on a des petites bûches au Québec, là, mais là-bas, c'est des grosses bûches.
Oui.
Les gens peuvent s'installer pour profiter du soleil. Puis aussi l'avenue Denman, sur laquelle, bon, on retrouve des petites boutiques, des cafés, où c'est vraiment sympathique de s'arrêter. Là. J'ai adoré d'ailleurs la boutique Kim Prince, qui a beaucoup de cadeaux en tout genre, des affiches vintage de Vancouver. On sait que c'est quand même populaire, des cartes routières, des cartes postales, des savons au message comique. Je recommande d'aller faire un tour pour acheter vos petits souvenirs de Vancouver.
D'accord. Alors, on a parlé, bon, du parc Stanley, hein, mais c'est ça, on peut y faire toutes sortes d'activités.
Oui, bien d'ailleurs, le parc Stanley est tellement grand. À pied, là, personnellement, je trouve ça un peu difficile à faire en une journée. Je vous recommande d'ailleurs de louer un vélo. Il y a plusieurs endroits là, près du parc où vous pouvez louer des vélos pour vous y balader ou encore de prendre la voiture. Il y a vraiment plusieurs beaux points de vue où s'arrêter. Point de vue sur la ville, point de vue sur le bord de la mer. C'est vraiment très vert comme parc, évidemment. Donc, il y a le parc de Totem qui est quand même très joli à voir. Il y a le point de vue sur le Lions Gate Bridge, notre version du pont, comme à San Francisco, un peu.
Tout à fait, oui.
Puis un petit phare aussi. Donc, c'est vraiment sympathique. Là. Prenez votre temps à amener.
Il n'y a pas de petit train?
Non.
Souvent dans ces parcs-là.
Oui, c'est vrai.
Non, ça manque, là, finalement. Pour les gens à mobilité réduite, là, ça pourrait être une bonne idée.
Effectivement.
Et puis, alors, il y a Granville Island.
Oui, donc on se transporte un peu de l'autre côté de Vancouver pour ce grand marché. C'est vraiment une petite île qui est un grand marché qui a été transformé dans les années 70. C'était un dépotoir avant. On retrouve plus de 300 commerçants. Donc, il y a un marché public, des restaurants, des galeries d'art, des boutiques. Et bon, la fin de semaine, quand il fait beau, de la musique, de l'ambiance, les familles, les enfants qui courent partout, c'est vraiment plaisant de se rendre sur cette île-là. Et par beau temps, bien, idéalement, là, prenez l'aquabus, qui est vraiment le bus sur l'eau pour se rendre à l'île de Granville pour éviter les foules.
Ça aussi, c'est une belle expérience. Et puis des restaurants style food court, hein, bien sûr.
Okay. Oui, exactement.
Ça, c'est bien, il y en a pour tout le monde. Et puis, autre chose, autre attraction, en fait, on parle d'un pont suspendu, quoi.
On se rend du côté de Vancouver Nord au Capilano Suspension Bridge. Vous en avez certainement entendu parler. C'est vraiment une attraction qui est très populaire et on m'avait personnellement dit de ne pas y aller parce que pour le prix, on trouvait que ça ne valait pas la peine. L'entrée est 55 $ par personne quand même. Mm-hmm. Mais moi, j'ai vraiment trippé sur cet endroit-là. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. Donc, on retrouve, oui, un pont suspendu qui fait 137 mètres de long. Et laissez-moi vous dire que faut pas avoir le vertige parce que le pont, évidemment, c'est un pont suspendu. Donc, ça bouge un peu quand on se déplace.
Oui, oui, oui. Sécuritaire malgré tout, mais tout de même. Et c'est vrai que là aussi, l'attraction, les arbres géants, faut voir.
Exactement. Puis, le parc a vraiment bien aménagé ça. Il y a des sentiers comme en hauteur où on peut se déplacer, observer les arbres. Il y a des beaux sentiers, vraiment des passerelles en bois là, pour se déplacer aussi à la base des arbres et juste admirer un peu le paysage. Puis, un autre sentier qui ont aménagé vraiment collé sur la falaise au-dessus de la rivière, encore là, vertige, attention. Mais c'est vraiment magnifique. C'est un endroit où la nature prend tout son sens.
Bon, maintenant, il y a les shipyards.
Oui, toujours du côté de Vancouver Nord, un peu plus près de Lower Lonsdale. On est vraiment au bord de l'eau, une vue sur le centre-ville de Vancouver. Donc, c'est les anciens chantiers navals, les shipyards, qui ont vraiment conservé le petit look industriel avec encore les grues, les rails qu'on retrouve par terre. Mais bon, maintenant, c'est des belles terrasses où on peut prendre une bière au soleil, il y a une tour d'observation sur la ville, il y a un petit marché, encore le café, boutique, galerie d'art. Donc, c'est vraiment un endroit super plaisant pour se retrouver un peu dans la vie locale des gens de Vancouver. L'été, justement, ils ont une programmation super diversifiée, des spectacles, du cinéma en plein air, des expositions, des cours de yoga. Et l'hiver, il y a une patinoire. Donc, c'est vraiment une partie de la ville qui est super le fun à découvrir. Là, puis on peut se rendre du centre-ville à Vancouver-Nord avec le CBUS.
C'est ça, une belle valorisation des berges et puis d'un lieu, finalement, un peu plus industriel, finalement. Comme le font bien des villes, hein, un peu partout dans le monde.
Définitif, avec les condos souvent aussi qui viennent avec.
Ah, ça, c'est sûr, ça se gentrifie comme toujours. Et puis, bon, autre chose aussi, une sortie à l'extérieur de Vancouver.
Oui, parce que, bon, évidemment, il y a encore plein de choses à vous dire à propos de Vancouver, mais il y a aussi, bon, des musées, des restaurants. Mais j'aimerais ça que vous passiez un petit peu de temps à aller voir, découvrir le Sea to Sky Highway. C'est la route, dans le fond, qui est empruntée pour se rendre à Whistler.
Okay.
C'est une route qui est sinueuse, à flanc de montagne. On a la vue sur les îles de Vancouver, puis sur la baie de Howe Sound. On peut s'arrêter dans n'importe quel petit village là, pour aller admirer un peu les traversiers, se balader. Mais je vous recommande de se rendre au moins jusqu'à Squamish. Donc, un petit peu avant Squamish, il y a le Sea to Sky Gondola, qui est dans le fond une gondole pour monter au sommet d'une montagne. Et tout en haut, on a la vue sur la baie. Un autre pont suspendu de 100 mètres, celui-ci, mais on est déjà en hauteur. Là, donc, ça rajoute un petit thrill. Et des sentiers de randonnée là, qui sont vraiment accessibles et faciles de se déplacer.
Bon, en tout cas, bref, on va... écoutez, s'il y a des petites choses dont on n'a pas parlé, ben, on va se reprendre la semaine prochaine. On fera un petit...
Et oui, le temps
une petite parenthèse.
Trop vite.
Oui, c'est ça. Alors, merci, Maude.
Merci.
Et puis, on se retrouve vendredi prochain.
À la semaine prochaine. On va voir sur l'île de Léon.
Ah oui, parfait. We'll be right back. c'était un extrait de la symphonie numéro 7, opus 92 de Beethoven, interprété par l'Orchestre de la Francophonie sous la direction de Jean-Philippe Tremblay. Il est là, l'autre bout du fil. Bonjour, Jean-Philippe Tremblay.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Merci oui, recevoir votre émission.
Ben, ça me fait grand plaisir. Un bel été, évidemment, qui est déjà bien entamé pour vous, hein, parce que les activités vont bon train du côté de l'orchestre. Bon, l'Orchestre de la Francophonie que vous dirigez depuis ses débuts en 2001, l'orchestre qui a vu le jour lors des Jeux de la Francophonie, justement, cette même année. Alors, ça explique le nom. Et puis, qui est rapidement devenu un tremplin exceptionnel pour les meilleurs jeunes musiciens québécois, canadiens et d'ailleurs, désireux de poursuivre une carrière au sein d'un ensemble orchestral professionnel. Alors voilà, c'est une sorte d'académie orchestrale ou un orchestre-école, en quelque sorte, l'Orchestre de la Francophonie.
Absolument. C'est vraiment devenu un entre-deux entre les études universitaires au conservatoire et le monde professionnel. Et on a vraiment toujours développé et pensé l'OF en fonction de ce monde professionnel-là, du rythme de travail qui est différent, de la charge de travail. Et puis, tout ça en essayant aussi, évidemment, de les outiller des meilleures techniques possibles, les préparer aux auditions, prendre soin de son corps, de sa tête. Donc, c'est vraiment un très gros tout maintenant qui j'espère, aide les jeunes musiciens.
C'est ça. C'est vraiment, il y a plein de c'est une expérience vraiment importante pour eux parce que, d'abord, bon, vous procédez à des auditions. Hein, faut dire que c'est pas tout le monde qui ont la chance de profiter de cette expérience. Alors, les auditions qui ont lieu généralement au printemps, là, si on veut, la sélection finale. Et puis, après ça, vous en choisissez un certain nombre. Cette année, ce qui est particulier, c'est, bon, vous êtes en formation plus réduite.
Oui, cette année, on a dû se réinventer un petit peu à la dernière minute pour une troisième fois parce qu'on a vécu deux étés c'est-à-dire non présentiel, les jeunes étaient en ligne. Et puis cet été, on était tout installé et prêt à les recevoir pour un été presque normal, mais on a eu certains problèmes avec l'obtention de visas de musiciens qui venaient un petit peu partout sur la planète. Et puis une dizaine de jours avant le début, on n'avait pas le choix de passer à autre chose parce qu'il y en a 28 qui ont malheureusement pas pu se joindre à nous. Donc, on a regardé qui était là avec nous, les instruments, on a refait une programmation et puis on est allé pour des ensembles de musique de chambre, mais assez élargis, des octuors, des septuors, sextuors, des quintettes avant. Donc, j'ai beaucoup de programmation, beaucoup de choses pédagogiques pour eux, formateurs, des programmes assez éclectiques. Là, on en a déjà deux concerts de donner, puis c'est un mélange un petit peu là, de musique qui a été écrite dans les 15 dernières années, autant que les grands romantiques et puis jusqu'à Mozart, Beethoven.
C'est ça. Puis vous avez aussi des compositeurs d'ici et même des compositions, en fait, des compositeurs issus des Premières Nations.
Oui, absolument. On a des compositeurs, des compositrices, en fait, cette année. On a joué justement hier soir une œuvre extraordinaire de Chris Dirksen. Il y en a une autre qui s'en vient au prochain programme. On a des pièces de Karine Sunabaka aussi. Donc, on a essayé d'aller aller découvrir un petit peu des musiques qui nous racontent des histoires, mais qui sont aussi des piliers pour les jeunes à travers cette espèce de répertoire majeur-là, d'avoir quelques découvertes comme ça. Puis c'est vraiment des belles pièces. C'est de la musique qui gagne à être entendue puis qui est super agréable à jouer aussi.
Oui, à chaque année, de toute façon, vous nous réservez une programmation vraiment de choix. Et bon, c'est sûr que c'est une façon pour les jeunes de découvrir la vie d'orchestre, comme vous dites, des horaires de travail différents, une façon de faire. Bon, c'est vraiment en même temps pour eux, c'est une façon aussi de développer un réseau entre eux. Bon, ils peuvent tisser des liens, mais il y a tout ce que vous leur apportez aussi comme bagage et comme vous dites, et vous avez même des coachs, des gens qui vont parler de leur santé mentale. Enfin, évidemment, les musiciens, ce sont des athlètes, alors ils peuvent avoir toutes sortes de problèmes. Donc, comment s'organiser pour jouer le plus longtemps possible sans se blesser, par exemple? Il y a une foule de conseils qui vient avec ça.
Absolument. C'est vraiment quelqu'un qui était aux études et puis qui passe entre 4, 6, 8 heures par jour sur un instrument. C'est vraiment un athlète aussi. Les muscles sont en demande toute la journée. Mais malheureusement, on n'a pas les mêmes réflexes et on n'a pas la même chance d'avoir les bons messages qui nous sont passés quand on commence. On oublie un tout petit peu parce que c'est une forme d'art, évidemment. Puis on pense pas tout de suite au côté musculaire ou au côté aussi de la préparation mentale. Mais si on veut jouer longtemps, en santé, sans tension, sans tendinite, sans tout ce qui vient avec les problèmes là, vraiment, c'est vraiment le concept de la tension versus l'intensité qu'on essaie de développer avec eux. Et puis, du côté mental, mais c'est vraiment la préparation mentale aux auditions.
C'est ça, l'anxiété jeune, de la performance.
Exactement, c'est ça, l'anxiété de la performance. Souvent, ces jeunes-là vont avoir des séries d'auditions. Si on perd les quatre premières, comment est-ce qu'on se remet la tête en forme et puis positif pour la dernière audition, pour être certain qu'on fait notre mieux. Fait qu'on essaie d'aborder vraiment là, un petit peu tout ce qui entoure là, ce monde-là qui les attend, puis leur donner les outils pour aller chercher un poste dans un environnement qui est vraiment, vraiment compétitif. Plus ça va, plus c'est compétitif. Pour un poste majeur dans un orchestre majeur, on peut avoir 200-300 candidats. Là, c'est complètement fou.
C'est ça, exactement. Donc, ça crée beaucoup d'anxiété. Vous avez aussi toute votre implication sociale, ça, bien sûr, avec le docteur Julien notamment.
Oui, c'est un des projets qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Et puis, il nous a beaucoup manqué dans les deux derniers étés COVID. Cet été, ça va être un petit peu plus modeste aussi, mais on recommence déjà là, à avoir la chance de passer du temps là-bas. Puis pour nos jeunes, c'est bon. Pour leurs jeunes, c'est bon. Il en ressort des meilleurs musiciens qui s'investissent dans leur communauté, qui sont conscients du milieu dans lequel ils vivent puis ils performent.
Mm-hmm. C'est ça. Donc, c'est vraiment une expérience complète qui attend ces jeunes. Quand vous les recevez au début de l'été, là, et puis par la suite, est-ce que vous remarquez un gros changement?
Ah oui, c'est énorme. Tant au point de vue personnel, là, un petit peu ce qu'on parlait avec le côté implication communautaire, tout ça, mais du point de vue technique aussi, évidemment, de passer l'été, que ce soit à l'orchestre ou à la musique de chambre, bien, on développe des nouveaux outils, nos oreilles s'aiguisent, si vous me permettez l'expression. Mm-hmm. On sensibilise à un nouveau répertoire, à des pièces de musique contemporaine qui sont très demandantes, des grandes pièces du répertoire. Donc, c'est certain que les jeunes font une espèce de courbe en montant, puis ça je pense qu'on est en tout cas un des acteurs qui leur donne un bon coup de pouce, puis les bons outils là, avec déjà les bagages qu'ils ont acquis à l'université et au conservatoire. On essaie juste de les amener un petit peu plus loin vers le milieu professionnel.
C'est ça. Alors, on invite évidemment les jeunes à faire leurs demandes, à envoyer une vidéo. Ça se fait au début de l'hiver, là, normalement. Alors, allez sur le site de toute façon. Vous avez des solistes invités aussi, je pense, au pianiste Mathieu Godet cette année. Et puis
oui,
un autre aussi, le violon solo de l'Orchestre symphonique d'Edmonton.
Oui, Robert Uchida qui a travaillé 10 jours avec les jeunes dans différentes fonctions comme chambriste, comme coach, comme mentor. Il quittait aujourd'hui. Robert, on a fait un concert hier soir justement avec Mathieu Godet. On a Dimitri Brière qui s'en vient sur le dernier concert. On a un paquet d'intervenants extraordinaires qui passent du temps généreusement avec les jeunes et puis qui les stimulent puis leur donnent ces fameux outils-là.
D'accord. Écoutez, j'aurais aimé ça parler avec vous, bien sûr, de vous-même, parce que évidemment, vous êtes un jeune chef encore. Vous avez dirigé de grands orchestres un peu partout dans le monde. On a même comparé votre fougue à Yannick Nézet-Séguin. En tout cas, bref. Évidemment, vous étiez aussi dans une agence très très importante qui a fermé aux États-Unis. Alors depuis 2010, hein, vous étiez avec l'agence Columbia qui a fermé ses portes aussi pendant la pandémie. J'imagine que ça change un peu la donne aussi pour vous?
Ça change un peu la donne. C'était vraiment un joueur qui était là depuis le début des années 20-30. C'était vraiment l'agence mythique new-yorkaise, mais il est quand même ressorti un genre de phénix qui s'est recréé avec quelques-uns des agents puis des artistes. Donc, j'ai quand même eu l'opportunité de continuer à travailler avec quelqu'un là-bas, mais c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant la COVID. Il y a beaucoup de manières de faire, tout le côté un tout petit peu là, business qui entoure notre formateur, peut-être à laisser du lest un tout petit peu. Puis
c'est ça. En tout cas, il faudrait en reparler, Jean-Philippe Tremblay.
Absolument.
Il reste deux concerts importants, là, donc c'est demain et lundi, hein?
Exactement, bon. Demain à l'église Saint-Andrew. Pardon, le 5 juillet à l'église Saint-Andrew-Saint-Paul. Et le 29 juillet, on est de retour aux Jeunesses musicales.
Parfait. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tremblay. Bon été à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci.
Et puis, chers auditeurs, merci d'avoir été là. Bonne fin de semaine. Bonnes vacances à ceux qui les prennent, quoi. Et on se retrouve lundi.